Chapitre 10. Fuite de Florence. Dans l'égarement de la tristesse, de la honte et de la peur, la pauvre jeune fille, tout éperdue, errait d'un pas précipité. C'était par une belle matinée. Le soleil brillait, mais non pour elle, qui, dans son trouble, pouvait se croire aussi bien au milieu de l'obscurité d'une nuit d'hiver. Elle se tordait les mains de désespoir, répandait des larmes amères, insensible à tout, excepté à la profonde blessure qu'on venait de faire à son cœur. Anéantie, en songeant à la perte de tout ce qu'elle aimait, comme si elle eût été le seul débris d'un grand naufrage jeté sur la côte déserte, elle fuyait sans réflexion, sans espoir, sans but. Elle voulait se sauver quelque part, n'importe où. La longue rue qu'elle suivait avait beau présenter un aspect riant, la lumière matinale avait beau dorer le faîte des maisons, rien ne parlait à son cœur si cruellement navré. Ni la vue d'un beau ciel bleu et des blancs nuages qui fuyaient au loin, ni la fraîcheur vivifiante de l'aurore aux doigts de rose, encore toute glorieuse de sa victoire remportée sur la nuit. Ce qu'elle demandait, la pauvre enfant, c'était de fuir quelque part, n'importe où, pour cacher son visage. Un refuge, n'importe lequel, pourvu qu'elle n'eût plus sous les yeux l'endroit maudit qu'elle venait de quitter. Déjà, on allait et venait dans la rue, les boutiques s'ouvraient, les domestiques étaient sur la porte. Déjà commençait à naître le bruit et le mouvement qui saluent la naissance du jour. Florence vit les figures qui passaient près d'elle exprimer une surprise mêlée de curiosité. De longues ombres se dessinaient sur le pavé, des voix étranges pour son oreille lui demandaient où elle allait et ce qu'elle avait. Bien qu'au premier abord elle en fût fort effrayée et qu'elle se mit à courir plus fort qu'auparavant, ces rencontres lui rendirent le service de la rappeler à elle en lui montrant la nécessité de se contenir. Mais où aller? Quelque part, n'importe où. Et elle allait toujours. Mais où aller? Elle songea à la seule fois où elle avait été perdue auparavant dans l'immense cité de Londres. Quelle différence! Et elle suivit la même route qu'elle avait suivie alors avec son guide. Elle se dirigea vers la demeure de l'oncle de Walter. Tout en étouffant ses sanglots et en essuyant ses yeux gonflés par les larmes, Florence essaya de calmer son agitation afin d'éviter l'attention des passants. Et elle cherchait aussi à suivre, autant que possible, les rues les plus désertes, et elle marchait un peu plus calme quand une petite ombre, qui lui était connue, se dessina au milieu de la rue. Cette ombre s'arrêta court, tourna autour d'elle, s'approcha, recula, bondit vers elle, et Diogène, car c'était Diogène, tout haletant, et pourtant faisant retentir la rue de ses aboiements joyeux, se coucha à ses pieds. « Oh, Diogène, mon cher, mon fidèle, mon sincère Diogène, es-tu venu jusqu'ici? Comment ai-je pu te quitter, toi qui n'aurais jamais quitté ta maîtresse ?» Florence se baissa et serra contre son cœur la tête de ce chien si laid, mais si bon, qui frottait le bonheur son vieux museau contre elle. Puis ils partirent ensemble. Diogène allait par sauts et par bonds, essayant, au milieu de ses gambades, d'embrasser sa jeune maîtresse et faisant culbute sur culbute sans la moindre vergogne. Puis il s'élançait sur de gros chiens qui semblaient se moquer de sa taille, faisait fuir les jeunes bonnes qui balayaient le devant des boutiques, s'arrêtait au milieu de ses mille extravagances pour regarder Florence et jappait avec tant d'ivresse qu'il amassait autour de lui tous les chiens du voisinage. Accompagnée de ce fidèle serviteur, Florence marchait d'un pas rapide, toujours vers la cité. La matinée s'avançait déjà, le soleil s'élevait dans le ciel. Les rues devenaient de plus en plus bruyantes, les passants étaient plus nombreux, les boutiques se remplissaient de monde, et elle se trouvait emportée par le flot tumultueux des gens affairés qui se dirigeaient de ce côté, et qui passaient avec indifférence devant les entrepôts, les hôtels, les prisons, les églises, les marchés, devant la richesse, la pauvreté, le bien et le mal, semblables aux larges fleuves, que tout ce bruit troublait au milieu de ces roseaux, de ces saules, de ces vertes prairies, et qui coulait bourbeux et sale devant les travaux et les soucis des âmes pour aller se jeter dans la mer profonde. Enfin, le quartier du petit aspirante marine commença à poindre. Encore quelques pas, et le petit aspirant en personne apparut à son poste, toujours attentif à ses observations astronomiques. Encore quelques pas, et la porte toute grande ouverte l'invitait à entrer. Florence, qui avait hâté sa marche à mesure qu'elle approchait du terme de son voyage, traversa en courant la rue, suivi de près par Diogène, que le bruit avait un peu ahuri, et s'élançant vers la boutique, elle tomba sur le seuil de la petite salle à manger qu'elle n'avait pas oubliée. Le capitaine, son chapeau de toile ciré sur la tête, était assis devant le feu et faisait chauffer son chocolat du matin. Sur la cheminée était posée sa montre, cet élégant bijou, tout près de lui, afin de pouvoir la consulter plus facilement pendant ses opérations culinaires. En entendant des pas et le frôlement d'une robe, le capitaine tourna la tête, se rappelant avec effroi la terrible Madame Maxtinger. Florence, à ce moment, agita vers lui sa main, chancela et tomba évanouie. Le capitaine, aussi pâle que Florence, si pâle que ses bourgeons en blanchirent, l'enleva comme un enfant et l'étendit sur ce même vieux sofa où elle avait dormi il y avait longtemps. « Quoi, les délices du cœur ? » dit le capitaine en la regardant attentivement. « C'est donc cette douce créature, devenue maintenant une femme ?» Le capitaine Cuttle avait un si profond respect pour elle devenue femme, qu'il n'aurait pas voulu la soutenir dans ses bras pour tout l'or du monde pendant qu'elle avait perdu connaissance. « Oh, délice du cœur !» dit le capitaine, en s'éloignant un peu avec une expression de tendresse alarmée. « S'il vous est possible de héler Ned Cuttle du bout du doigt seulement, faites-le. » Florence ne bougea pas. « Oh, délice du cœur !» dit le capitaine, tout tremblant. « Pour l'amour de Walter, noyé dans l'onde amère, faites un signal, un seul signal, si vous le pouvez. » Voyant qu'elle restait insensible, même à cette adjuration si saisissante, le capitaine Cuttle enleva de dessus la table un vase plein d'eau froide et lui en jeta quelques gouttes sur la figure. Puis, cédant à la gravité des circonstances, le capitaine se servit avec une incroyable légèreté de ses gros doigts. Il lui ôta son chapeau, mouilla ses lèvres et son front, rejeta en arrière ses cheveux, couvrit ses pieds avec sa redingote, dont il se dépouilla dans cette intention, et lui frappa dans la main. Qu'elle était petite dans la sienne! Il en recula d'étonnement quand il la toucha. Mais Florence avait remué les paupières, ses lèvres commençaient à s'agiter. Il continua l'application de ses remèdes de meilleur cœur. « Courage !» dit le capitaine. « Courage ! Tenez bon, ma mignonne, tenez bon. Vous voilà mieux maintenant. Nous filons droit, c'est le mot. Amarron, buvez-moi une petite goutte de cela. Ah, vous revenez à vous. Comment va maintenant, ma mignonne, comment va ?» À ce moment, le capitaine Cuttle, se rappelant par une singulière association d'idées qu'il n'y avait pas de bon médecin sans montre, retira la sienne de la cheminée et la fixa à son croc. Puis, prenant la main de Florence dans la sienne, ses yeux allèrent de la montre à Florence comme s'il eût espéré du cadran quelque bon office. « Comment vous va, ma mignonne? Comment vous va, maintenant ?» dit le capitaine. « C'est bien ça, ma vieille, » dit le capitaine tout bas, en jetant un regard de satisfaction sur sa montre, « je crois que tu lui as fait du bien. Pour peu qu'on te retarde d'une demi-heure chaque matin et qu'on t'avance d'un quart d'heure dans l'après-midi, tu es une montre qui n'a pas sa pareille. Comment va, ma charmante ?»« Cuttle, est-ce vous ?» s'écria Florence en se soulevant un peu. « Oui, oui, ma charmante, » dit le capitaine, en se décidant tout à coup pour cette forme de langage qui lui sembla la plus courtoise. « L'oncle de Walter est-il ici ?» demanda Florence. « Ici, ma mignonne, » répondit le capitaine, « il n'a pas mis le pied ici depuis bien longtemps. On n'en a pas entendu parler depuis qu'il a filé après le pauvre Walter. Mais, » dit le capitaine, par manière de citation, « loin des yeux, mais près du cœur, toujours cher à l'Angleterre, à son foyer et à la beauté. « Demeurez-vous ici ?» demanda Florence. « Oui, ma charmante, » répondit le capitaine. « Oh, capitaine Cuttle !» s'écria Florence, en joignant ses mains et en parlant d'un air égaré, « sauvez-moi, gardez-moi ici, que personne ne sache que je suis ici. Je vous dirai ce qui m'est arrivé tout à l'heure quand je le pourrai. Je n'ai personne au monde chez qui je puisse aller. Ne me renvoyez pas. « Vous renvoyez, ma charmante, » s'écria le capitaine, « vous, les délices du cœur. Attendez un brin, nous allons faire un petit tour ici et donner un tour de clé. » En disant ces mots, le capitaine, se servant de sa main unique et de son croc avec la plus grande dextérité, va chercher le volet de la porte, le pose à sa place, l'assujettit solidement et ferme à clé. Quand il revint à côté de Florence, elle lui prit la main et la baisa. Elle était donc bien abandonnée. C'était un appel adressé à son cœur. Quelle confiance en lui! La tristesse inexprimable de son visage, la douleur qu'elle avait ressentie et qu'elle ressentait encore, ce qu'il se rappelait de son histoire passée, son abandon en ce moment, son état désespéré, tout cela toucha tellement le bon capitaine qu'il se sentit ému de tendresse et de pitié. « Ma charmante, dit-il en se frottant le nez avec le manche de son habit, jusqu'à ce qu'il fût aussi luisant qu'une plaque de cuivre bien polie, ne dites plus un mot à Edward Cuttle avant de vous sentir tout à fait à votre aise, ce qui ne sera ni aujourd'hui ni demain. Pour ce qui est de vous renvoyer ou de dire où vous êtes, non, certainement. Avec l'aide de Dieu, je ne le ferai pas. En vérité, je vous le dis. Notez cela, c'est dans le catéchisme. » Ceci fut prononcé par le capitaine d'une seule haleine et de l'air le plus solennel. Il ôta son chapeau au moment où il dit « En vérité, je vous le dis » et le remit sur sa tête quand il eut fini. Florence ne pouvait que le remercier et lui témoigner toute la confiance qu'elle avait en lui. Elle le fit, se serrant contre cette écorce grossière, le dernier asile de son cœur souffrant, elle appuya sa tête sur l'épaule de l'honnête homme, lui passa le bras autour du cou et se serait agenouillée devant lui pour le remercier si, devinant son dessein, il ne l'eût relevé en galant chevalier. « Trois, dit le capitaine, trois, vous êtes encore trop faible pour vous tenir debout. Vous voyez, ma mignonne, et vous pourriez chavirer encore. Allons, allons, restons là. » Il fallait voir le capitaine la poser sur le sofa et la couvrir de son grand manteau. C'est un spectacle qui en valait bien d'autres. « Et maintenant, dit le capitaine, vous allez déjeuner, ma charmante, et le chien aussi aura sa part. Et puis après, vous monterez là-haut, dans la chambre du vieux Solomon Gills, et vous y dormirez comme un petit ange. » Le capitaine Cuttle caressa Diogène quand il parla de lui, et Diogène accueillit d'un air à moitié gracieux les avances de son bienfaiteur. Pendant tout le temps que le capitaine avait cherché à la faire revenir à elle, l'animal était évidemment combattu par deux désirs contraires. Le désir de s'élancer sur le capitaine ou de lui offrir son amitié. Il avait exprimé l'alternative dans laquelle il se trouvait, soit en agitant sa queue, soit en montrant les dents, soit en grognant de temps en temps. Mais bientôt ses doutes se dissipèrent. Il était clair qu'il avait fini par considérer le capitaine comme l'homme le plus aimable et par penser qu'un chien certainement ne pouvait que se trouver honoré d'avoir fait sa connaissance. Pour mieux lui témoigner ses sentiments de confiance, Diogène suivait de l'œil tous les mouvements du capitaine, occupé à faire son thé et ses rôtis, et lui montra le vif intérêt qu'il portait à un homme de ménage dans l'exercice de ses fonctions. Mais le brave capitaine travaillait en pure perte. Florence, après avoir essayé de faire honneur au déjeuner du capitaine, ne se sentit le courage de rien manger. Elle ne pouvait que pleurer et pleurer encore. « c'est bien, » dit le capitaine d'un ton de douce sympathie. « Quand vous aurez fait un petit somme, délice du cœur, vous irez de l'avant. »« À son tour, maintenant, mon garçon, » dit-il en s'adressant à Diogène. « J'espère que tu vas faire bonne garde là-haut auprès de ta maîtresse. » Diogène, qui depuis longtemps se léchait les babines et lorgnait le déjeuner de ses yeux étincelants, ne se jeta pas dessus comme un vautour. Mais tout à coup, au contraire, redressant ses deux oreilles, il s'élance vers la porte de la boutique et se met à aboyer avec fureur. Puis, fouillant de la tête, il semble vouloir se frayer un chemin pour sortir à travers le plancher de la boutique. « Y aurait-il là quelqu'un ?» demanda Florence alarmée. « Non, ma charmante, » reprit le capitaine. « S'il y avait quelqu'un, on entendrait du bruit. Ne craignez rien, ma mignonne, c'est le monde qui passe dans la rue. » Cependant, Diogène aboyait, aboyait toujours. Il fouillait de la tête avec une opiniâtreté furibonde. Et toutes les fois qu'il s'arrêtait court pour prêter l'oreille, il semblait puiser dans ses nouvelles informations une conviction de plus en plus sérieuse, car il recommença le même manège une douzaine de fois. Même quand il se fut décidé à revenir déjeuner, il s'arrêtait tout à coup d'un air irrésolu et retrottait du côté de la porte. Il lui reprit encore un accès de fureur avant d'avoir touché un morceau. « Si quelqu'un, par hasard, écoutait et guettait, » murmura Florence, « quelqu'un qui m'aura vu venir par ici et qui m'aura suivi, peut-être. » « Ne serait-ce pas la jeune femme, ma charmante ?» dit le capitaine, comme frappé d'une idée lumineuse. « Suzanne ?» demanda Florence en secouant la tête. « Oh non, Suzanne m'a quitté il y a longtemps. »« Elle n'a pas déserté, j'espère, » fit le capitaine. Oh, ma mignonne, il n'est pas possible que cette jeune femme se soit enfuie, n'est-ce pas ? Oh, non, 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 s'écria Florence, c'est bien le cœur le plus fidèle qui soit au monde. Cette réponse soulagea beaucoup le capitaine. Il exprima sa satisfaction en ôtant son chapeau de toile cirée et en s'essuyant la tête avec son mouchoir roulé en tampon. « Ah, je le savais bien, » ajouta-t-il avec une expression de joie indéfinissable, qu'il portait peinte sur son front radieux. « Eh bien, l'ami, tu es rassuré maintenant, » dit le capitaine à Diogène. « Il n'y avait personne là, ma charmante. Dieu merci !» Diogène n'en était pas du tout certain. Il y avait toujours à la porte quelque chose qui l'attirait de temps en temps. Il rôdait alentour, reniflant et grondant en lui-même, comme s'il lui était impossible de renoncer à son idée première. Cet incident et l'aspect de Florence, faible et fatiguée, déterminèrent le capitaine à préparer immédiatement la chambre de Sol Gills pour servir de retraite à la jeune fille. Il monta en toute hâte au haut de la maison et fit tous les arrangements que lui suggérèrent son imagination et ses ressources. Le capitaine, qui était un homme d'ordre et qui avait l'habitude de faire toutes les choses en règle, couvrit le lit d'une housse blanche pour simuler un lit de repos. Le même procédé inventif lui fit convertir la toilette en une espèce d'autel sur lequel il mit ses deux petites cuillères en argent, un pot de fleurs, un télescope, sa fameuse montre, un peigne de poche, un chansonnier. C'était comme une petite collection de curiosités qui faisait assez bel effet. Après avoir fermé les jalousies et jonché le parquet de carrés de tapis, le capitaine contempla son œuvre avec bonheur et redescendit dans la petite salle à manger chercher Florence pour la conduire à son boudoir. Le capitaine ne trouvait pas possible de laisser Florence monter seule l'escalier. Il aurait cru violer en cela les saintes lois de l'hospitalité. Florence était trop faible pour combattre cette conviction du capitaine. Il la porta donc à bras tendus dans sa chambre et la coucha sur le lit de repos où il la recouvrit d'une grande capote. « Ma charmante, dit le capitaine, vous êtes aussi en sûreté ici que si je vous avais porté aux fêtes de la cathédrale de Saint-Paul et que j'eusse retiré l'échelle après. Dormez à votre aise, car c'est là surtout ce dont vous avez besoin, et puisse le baume réparateur du sommeil vous rendre vos forces. C'est le vœu d'une humble créature profondément affligée. Quand vous aurez besoin de quelque chose, délice du cœur, de tout ce que peut vous offrir cette humble demeure ou la ville tout entière, « faites-le savoir à Edward Cattle, qui se tiendra à portée de la voix sur le seuil, et vous pouvez être sûr que le cœur de cet homme en vibrera de joie. » Le capitaine termina en baisant, avec la galanterie d'un chevalier du temps jadis, la main que lui tendit Florence, et se retira sur la pointe du pied. En descendant dans la petite salle à manger, le capitaine Cattle, après un court conciliabule tenu avec lui-même, pensa qu'il ferait bien d'ouvrir la porte de la boutique pendant quelques minutes, afin de s'assurer que personne ne flânait par là. Il l'ouvrit donc et se posta sur le seuil, l'œil au guet, et promenant sa lunette sur toute la rue. « Comment vous portez-vous, capitaine Cattle ? » dit une voix à ses côtés. Le capitaine ramena ses regards près de lui et s'aperçut que M. Toots l'avait abordé pendant qu'il interrogeait l'horizon. « Comment allez-vous, mon garçon ? » répondit le capitaine. « Bien, je me porte assez bien, » dit M. Toots. « Vous savez, je ne puis jamais être tout à fait bien maintenant. » M. Toots n'était jamais plus explicite que cela sur le chapitre sérieux qui troublait son existence quand il causait avec le capitaine Cattle pour rester fidèle à leur pacte. « Capitaine Cattle, dit M. Toots, si je pouvais être assez heureux pour causer un moment avec vous, c'est assez important. »« Ah, voyez-vous, mon garçon, répliqua le capitaine en l'introduisant dans la petite salle à manger, c'est que, voyez-vous, je ne suis pas comme qui dirait tout à fait libre ce matin. Et si vous pouvez m'expédier ça un peu, ça me fera plaisir. » « Certainement, dit M. Toots, qui comprenait rarement ce que voulait dire le capitaine. Je vais vous expédier ça, c'était justement ce que je voulais faire, naturellement. » « S'il en est ainsi, répondit le capitaine, à l'œuvre. » Le capitaine était fort troublé de la possession de son terrible secret. Avoir Miss Dombey sous son toit, pendant que l'innocent Toots était là assis en face de lui sans se douter de rien. Il en était si ému que la sueur lui coulait du front et qu'il ne pouvait, tout en l'essuyant, son chapeau de toile ciré à la main, s'empêcher de regarder fixement M. Toots. M. Toots, de son côté, semblait avoir de bonnes raisons pour être aussi dans un état nerveux. Il fut si déconcerté par le regard fixe du capitaine qu'après l'avoir contemplé quelque temps en silence d'un air hébété et en se dandinant sur sa chaise, « Pardon, lui dit-il, mais vous ne trouvez rien d'extraordinaire dans ma personne, n'est-ce pas ?»«
Non, mon garçon, répondit le capitaine, non. »
« C'est que, dit M. Touche en ricanant, je vois bien que je dépéris. Vous aurez la complaisance de ne pas en parler, cela me fera plaisir. Berger et ses compagnies ont changé ma mesure. J'ai beaucoup maigri. C'est un bonheur pour moi. J'en suis content. Je serais encore plus content si je pouvais m'en aller tout doucement. Je ne suis qu'une pauvre brute, vous savez, bonne tout au plus à paître sur cette terre, capitaine Cattle. » Plus M. Toots continuait sur ce chemin, plus le capitaine se sentait suffoqué par son secret et le regardait fixement. En proie à ce malaise, et préoccupé de l'idée de se débarrasser de M. Toots, sa contenance était des plus bizarres et des plus singulières. Vraiment, il se fut entretenu avec un revenant que sa figure n'eût pas été plus décomposée. « Mais je voulais vous dire, dit M. Toots, que, me trouvant par hasard de ce côté ce matin, je venais, à vous dire vrai, pour déjeuner avec vous. Quant à dormir, voyez-vous, je ne dors plus maintenant. On pourrait me prendre pour un veilleur de nuit, avec la différence que je n'ai pas de paye et que les veilleurs de nuit n'ont pas de martel en tête comme moi. « À la manœuvre, mon garçon, dit le capitaine, en le rappelant à son sujet. « Certainement, dit M. Toots. Vous avez raison. Donc, me trouvant ce matin de ce côté, il y a une heure ou deux, et trouvant la porte fermée, « Et quoi, est-ce que vous avez attendu là, camarade ?» demanda le capitaine. « Non, répondit Toots, je n'ai pas attendu une minute. J'ai pensé que vous étiez sorti. Mais la personne m'a dit, par parenthèse, vous n'avez pas de chien, n'est-ce pas ?» Le capitaine secoua la tête. « C'est justement ce que j'ai affirmé, dit M. Toots. Il y a un chien qui joue son rôle dans... « Mais pardon, capitaine Cattle, ça sort de notre traité. » Le capitaine regarda si fixement M. Toots qu'on eût dit que ses yeux avaient doublé de grosseur. La sueur lui coulait du front à la pensée qu'il pourrait bien prendre fantaisie à Diogène de venir dans la salle à manger rompre le tête-à-tête. « La personne me dit donc qu'elle avait entendu un chien aboyer dans la boutique, » continua M. Toots. « Mais je savais bien que cela ne pouvait pas être, et je le lui ai dit. Cependant, elle l'affirmait comme si elle avait vu le chien. « Mais qui donc, mon garçon ?» demanda le capitaine. « Ah, voilà, dit M. Toots, dont les nerfs semblaient de plus en plus agacés. Ce n'est pas à moi de dire ce qui a pu arriver ou ce qui n'est pas arrivé. Vraiment, je n'en sais rien. Je me trouve mêlé à tant de choses que je ne comprends pas qu'il me semble que ma tête en est un peu détraquée, ma foi. Je le crois. » Le capitaine secoua la sienne en signe d'assentiment. « Mais la personne me dit, pendant que nous nous éloignions ensemble, continua M. Toots, que vous saviez ce qui, dans la vie, pouvait arriver. Il a appuyé fortement sur le mot « pouvait », et que si on vous priait de vous préparer à quelque chose, vous vous y prépareriez, bien sûr. « Mais qui, cette personne, mon garçon ?» répéta le capitaine. « Je n'en sais rien, vraiment, » répondit M. Toots. « Je n'en ai pas la moindre idée. En arrivant à la porte, je l'ai trouvé là. « Ce monsieur m'a demandé si je reviendrais. Je lui ai répondu que oui. Il m'a demandé si je vous connaissais. Je lui ai répondu que oui, que j'avais le plaisir de vous connaître, que vous m'aviez accordé le plaisir de faire votre connaissance après quelques réflexions. Il m'a recommandé, puisque c'était comme cela, de vous dire ce que je viens de vous dire, sur la nécessité de se tenir préparé à ce qui peut arriver dans la vie, et de vous demander, aussitôt que je vous verrai, d'aller jusqu'au coin, ne fût-ce qu'une minute, pour une affaire des plus importantes chez M. Broglet, l'huissier-priseur. Maintenant que je vous dise, je suis convaincu, quoi que ce soit, que c'est très important, et si vous y allez, j'attendrai ici que vous soyez revenu. » Le capitaine, partagé entre la crainte de faire quelque tort à Florence en n'y allant pas, et le sentiment d'effroi que lui faisait éprouver l'idée de laisser M. Toots, maître absolu de la maison, avec la chance de découvrir le mystère, était en proie à une agitation qui ne put échapper même à M. Toots. Mais le jeune homme, attribuant l'inaction de son ami à l'effet anticipé du rendez-vous mystérieux, n'en demanda pas plus long, se félicitant lui-même de sa discrétion par de gros éclats de rire. À la fin, le capitaine, persuadé que de deux mots il faut choisir le moindre,
résolu de courir chez Broglie, l'huissier priseur. Il commença par fermer la porte qui communiquait à la partie supérieure de la maison, et, mettant la clé dans sa poche, il dit à M. Toots, avec un peu d'hésitation et d'embarras, « Si c'est comme ça, vous m'excusez, n'est-ce pas, l'ami ?»«
Comment donc, capitaine Gills ?» répondit M. Toots. « faites donc, ne vous gênez pas. »
Le capitaine le remercia cordialement, et après lui avoir promis de revenir en moins de 5 minutes, il sortit pour aller trouver la personne qui avait chargé M. Toots de ce message équivoque. L'infortuné Toots, livré à lui-même, s'étendit sur le sofa, ne se doutant guère de la personne qui s'y était reposée la dernière. Puis, regardant le plafond, il s'abandonna à ses rêves en l'honneur de Mademoiselle Dombey, oubliant à la fois toute notion de l'espace et du temps. Et il fit bien, car, quoique le capitaine ne fût pas resté longtemps dehors, il resta pourtant plus longtemps qu'il n'avait cru. Quand il revint, il était pâle, très ému. On aurait dit qu'il avait pleuré. Il semblait avoir perdu l'usage de la parole jusqu'au moment où il alla au buffet chercher un verre de rhum. Puis, poussant un profond soupir, il s'assit dans une chaise, la main devant la figure. « Capitaine Cuttle, dit M. Toots avec bonté, j'espère qu'il n'est pas arrivé de malheur. »«
Merci, mon garçon, dit le capitaine. Non, au contraire. »
« Vous avez l'air abattu, capitaine Cuttle, fit observer M. Toots.
« C'est que, mon garçon, parut avouer le capitaine, je suis désorienté. J'ai perdu la boussole.
« Puis-je faire quelque chose pour vous, capitaine Cuttle ? Si je le puis, usez de moi, sans façon. » Le capitaine retira sa main de sa figure, le regarda avec un mélange de pitié et de tendresse, lui prit la main et la secoua vigoureusement.
« Non, merci, dit le capitaine. « Vous ne pouvez rien, mon garçon. Tout ce que je vous demanderai, c'est de me laisser tranquille pour le moment. »«
Je crois vraiment, camarade, dit-il en lui serrant encore la main, qu'après Walter, mais dans un autre genre, vous êtes le meilleur garçon du monde. »«
Ma parole d'honneur, capitaine Cuttle, répondit M. Toots en frappant la main du capitaine, comme pour se préparer à la secouer à son tour, c'est un grand bonheur pour moi d'avoir votre estime. Je vous remercie. »
« Allons, bellement et bon courage !» dit le capitaine en lui frappant sur l'épaule.
« Bah, il y a plus d'une jolie fille sur la terre !»«
Pas pour moi, répondit Toots gravement, pas pour moi, je vous assure. L'état de mon cœur à l'égard de Miss Dombey est indéfinissable. Mon cœur est une île déserte, qu'elle habite seule. Je me mine de jour en jour, et j'en suis fier. Si vous voyez mes mollets quand j'ôte mes bottes, vous auriez l'idée de ce que peut produire un amour sans espoir. » On m'a ordonné le quinquina, mais je n'en prends pas, car je n'ai nullement envie de me fortifier. J'aime mieux aller plus mal, mais tout ce que je vous dis là est une infraction à notre traité. Adieu, capitaine Cuttle.
Le capitaine Cuttle répondit à l'adieu chaleureux de M. Toots, ferma la porte sur lui, et secouant la tête, avec la même expression singulière de pitié et de tendresse, empreinte tout à l'heure dans son regard, il monta à l'étage supérieur, pour voir si Florence n'avait pas besoin de lui. Il se fit un changement complet sur la physionomie du capitaine Cuttle pendant qu'il monta. Il essuya ses yeux avec son mouchoir, puis il frotta son nez avec sa manche, comme il l'avait déjà fait le matin, mais ce n'était plus du tout la même figure. Tantôt on pouvait le croire au comble du bonheur, tantôt au contraire il avait l'air des plus affligés, mais la gravité qui se montrait dans ses traits leur était si peu familière, et leur communiquait un changement tellement à leur avantage qu'une préparation chimique n'aurait pas opéré une plus belle métamorphose. Il frappa doucement avec son croc 2 ou 3 fois à la porte de Florence, mais ne recevant pas de réponse, il se hasarda d'abord à jeter un coup d'œil dans l'intérieur et ensuite à entrer. Ce qui l'enhardit sans doute dans cette détermination, ce furent les amitiés que lui fit Diogène. Couché tout de son long par terre auprès du lit, il remua la queue et cligna des yeux à la vue du capitaine, sans avoir la moindre envie de se relever sur ses pattes. Elle dormait profondément et gémissait dans son sommeil. Le capitaine, avec le plus profond respect pour sa jeunesse, sa beauté et son chagrin, lui souleva la tête, étendit soigneusement sur elle la capote qui la couvrait, ferma davantage les persiennes pour qu'elle pût reposer plus tranquillement, puis s'étant glissé sans bruit dehors, il reprit son poste sur l'escalier.
Tout cela fut fait d'une main si discrète et d'un pas si léger que Florence elle-même n'eut pas mieux fait. Dans ce monde où les avis sont si différents, on pourra se demander pendant longtemps quelle est la preuve la plus grande de la bonté du Tout-Puissant. Est-ce d'avoir formé des doigts délicats, bien faits pour éveiller des sentiments de tendresse et de sympathie dans les êtres qu'il touche et pour calmer les souffrances et les peines? Ou bien est-ce d'avoir façonné une main rude comme celle du capitaine, mais que le cœur instruit, guide et adoucit en un instant? Florence dormait dans son lit, oubliant qu'elle n'avait plus d'asile ni de père, et le capitaine Cattle veillait sur l'escalier. Un sanglot, un gémissement plus fort qu'à l'ordinaire, le ramenait d'un bond à sa porte. Mais peu à peu, elle dormit plus tranquillement, et le capitaine put continuer de monter la faction sans être dérangé. Chapitre 11. Le petit aspirant de marine fait une découverte. Florence dormit longtemps. Le jour parut, le jour se passa, le soleil était sur son déclin, que, fatiguée de corps et d'esprit, elle dormait encore. Elle dormait sans penser au lit étrange sur lequel elle reposait, sans s'inquiéter du bruit, du tapage de la rue, sans voir le jour qui pénétrait à travers les persiennes. Mais le lourd sommeil où elle était plongée ne pouvait cependant lui faire oublier tout ce qui s'était passé dans cette demeure qui n'était plus la sienne. Des souvenirs confus et tristes venaient troubler son repos. En proie à une inquiétude continuelle, produite comme par une douleur mal assoupie, Florence ne pouvait goûter un sommeil paisible. Sa joue pâle était plus souvent mouillée de larmes que ne l'aurait voulu le brave capitaine, qui, de temps en temps, passait la tête tout doucement par la porte entrebâillée pour la voir. Le soleil baissait à l'horizon, au milieu d'un nuage rougeâtre. Ses rayons pénétraient à travers les arceaux et les figures architecturales des églises de la ville. On eût dit des flèches d'or qui les traversaient de part en part, puis, rasant le fleuve et le rivage unis, ils formaient comme un sentier de feu, et au loin, sur la mer, ils enveloppaient les voiles des navires d'une brillante auréole. Vu du haut d'une colline et du milieu des cimetières paisibles, le soleil, dans sa gloire, plongeait les lointains paysages dans des flots de lumière qui semblaient confondre le ciel et la terre dans une éblouissante apothéose. Florence, en ouvrant ses yeux gonflés de sommeil, resta d'abord quelques instants à regarder avec insouciance et sans la reconnaître la chambre où elle se trouvait. Puis elle écouta d'un air tout aussi distrait le bruit de la rue. Mais bientôt elle se dressa sur son lit, promena ses regards étonnés autour d'elle et se rappela tout. « Ma mignonne, » dit le capitaine en frappant à la porte, « comment va ?»« Cher ami, » s'écria Florence en courant à lui, « est-ce vous ?» Le capitaine fut si fier d'être ainsi appelé, si heureux du bonheur qui sembla se refléter sur le visage de Florence à sa vue, qu'il lui envoya un baiser par l'intermédiaire de son croc, muet interprète de ses sentiments pour elle. « Comment va, mon joli bijou ?» dit le capitaine. « J'ai dormi sans doute bien longtemps, » répondit Florence. « Quand suis-je arrivé ici ? Hier ?»« Aujourd'hui même, ma charmante, en ce bienheureux jour, » répondit le capitaine. « N'ai-je pas passé une nuit ici ? Est-ce qu'il fait encore jour ?» demanda Florence. « Voilà la nuit qui vient, ma mignonne, voyez ?» dit le capitaine, et il écarta le rideau de la croisée. Florence et le capitaine restèrent un moment sans dire un mot, éclairés tous deux par les derniers rayons du jour. Florence, triste et craintive, s'appuyait sur le bras du capitaine. Le capitaine, de son côté, avec ses traits rudes et sa figure hâlée, fier de sa protégée, se tenait auprès d'elle à la lueur rosée du ciel. Les formes de langage qu'il aurait pu employer pour peindre ce qu'il ressentait eussent été peut-être assez étranges s'il avait eu à exprimer ses sentiments. Mais son cœur lui disait aussi éloquemment que possible que dans le calme du soir et dans la magnificence du soleil couchant, il y avait quelque chose qui devait faire déborder le cœur de Florence et qu'il valait mieux la laisser pleurer à son aise. Il ne prononça donc pas une parole. Mais quand il sentit le bras de la jeune fille se serrer contre le sien, qu'il sentit la tête de l'enfant abandonnée se rapprocher de lui et s'appuyer sur la grossière étoffe de son habit, il serra ce bras dans sa rude main. Il la comprit, et elle le comprit aussi. « Cela va mieux maintenant, ma mignonne, » dit le capitaine. « Allons, gaiement, gaiement. Je vais descendre préparer quelque chose pour le dîner. Descendrez-vous toute seule après, mignonne, ou faudra-t-il qu'Edward Cattle vienne vous chercher ?» Florence l'assura qu'elle était tout à fait en état de descendre l'escalier, et le capitaine se demanda avec inquiétude s'il observait bien en cela les lois de l'hospitalité, la laissa libre cependant, descendit aussitôt et se mit en devoir de faire rôtir un poulet devant le feu de la petite salle à manger. Pour être plus à même de mener à bien ses fonctions culinaires, il ôta son habit, retroussa ses manches, mit sur sa tête son chapeau de toile cirée, sans lequel il était incapable de se tirer jamais avec succès d'une difficulté. Après avoir calmé sa tête malade et rafraîchi sa figure brûlante dans l'eau que le capitaine avait eu soin de lui apporter pendant son sommeil, Florence se mit devant la glace pour rattacher ses cheveux flottants. Puis elle s'aperçut que sa poitrine portait la noire empreinte d'un coup porté par une main courroucée, mais elle en détourna les yeux immédiatement. À cette vue, ses larmes coulèrent en abondance. Elle ressentit de la honte et de l'effroi, mais aucune colère contre lui. Quoique sans asile et sans père désormais, elle lui pardonnait tout. Il ne lui vint pas à l'idée qu'elle eût quelque chose à pardonner à son père et ne s'avouait pas qu'elle lui pardonnait. Mais elle fuyait son image et son souvenir, comme elle s'était enfuie loin de la réalité. Pour elle, il était perdu sans retour. Pour elle, cet être qu'on appelle un père n'existait plus dans le monde. Que faire? Où demeurer? Florence, la pauvre jeune fille sans expérience, ne le savait guère. Dans ses rêves vagues et confus, elle se figurait trouver bien loin, plusieurs petites sœurs qu'elle instruirait, plusieurs petites sœurs qui seraient bonnes pour elle et auxquelles elle s'attacherait sous un nom supposé. Elle se figurait déjà les voir grandir au milieu d'une heureuse famille, se marier, se montrer pleine de bonté pour leur vieille gouvernante et lui confier plus tard l'éducation de leur propre fille. Elle pensait ensuite au sort bizarre et triste qui la condamnerait, vieille et fille, avec ses cheveux blancs, à emporter son secret dans la tombe, lorsque Florence tombait, serait déjà depuis longtemps oubliée. Mais elle ne voyait encore tout cela qu'à travers d'épais nuages. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle n'avait pas de père sur la terre. Et elle se le répétait souvent dans le secret de son cœur, caché à tous les regards, excepté à ceux du père qu'elle avait dans le ciel. Sa petite fortune ne se montait guère qu'à quelques louis d'or. Il fallait avec une partie de cet argent acheter des vêtements, car elle n'avait que ceux qu'elle portait sur elle en ce moment. Elle était trop désolée pour songer que cet argent serait bientôt parti. Eût-elle eu moins de chagrin, elle était encore trop innocente dans les affaires du monde pour s'en inquiéter. Elle essaya de calmer sa pauvre tête et de sécher ses larmes. Elle fit tous ses efforts pour apaiser la fièvre à laquelle elle était en proie, et pour se convaincre que tous ces événements venaient bien de se passer, quelques heures auparavant seulement, quoique pour elle, il sembla déjà y avoir des semaines et des mois. Enfin, elle descendit retrouver son bon protecteur. Le capitaine avait mis la nappe avec un grand soin. Il était occupé à faire, dans la casserole, une sauce aux œufs. De temps en temps, il arrosait la pièce de volaille qui tournait et rôtissait au feu de la cheminée, au bout d'une ficelle. Il eut la précaution d'entourer Florence du coussin sur le sofa, déjà placé dans un petit coin bien chaud pour qu'elle fût à son aise. Puis, continuant sa besogne avec une habileté extraordinaire, il fit chauffer du jus de viande dans une autre petite casserole, mit bouillir une poignée de pommes de terre dans une troisième, sans oublier de donner un coup d'œil à la sauce aux œufs et de surveiller le poulet, arrosant l'un, tournant les autres avec une impartialité sans égale, à l'aide de son unique et précieuse cuillère, et ne se reposant jamais. Ce n'est pas tout. Le capitaine avait encore à guetter une petite poêle dans laquelle des saucisses frémissaient d'une façon toute musicale. Jamais on ne vit de cuisinier plus radieux dans son coup de feu. On ne saurait dire qui était le plus luisant de son chapeau de toile cirée ou de sa joyeuse figure. Le dîner étant enfin tout à fait prêt, le capitaine Cattle dressa les mets sur les plats et les servit avec une dextérité aussi remarquable que celle qu'il avait mise à les faire cuire. Il s'habilla pour se mettre à table. Sa toilette consista à ôter son chapeau de toile cirée et à passer son habit. Cela fait, il roula la table, tout près de Florence assise sur le sofa, dit le bénédicité, dévissa son croc, vissa à la place une fourchette, et fit les honneurs du festin. « Allons gaiement, ma charmante, » dit le capitaine, « essayez de manger un morceau. Tenez bon, ma chère, voici une aile bien tendre. Voilà de la sauce, une saucisse, une pomme de terre. » Et ce disant, le capitaine arrangea avec symétrie sur une assiette chacun des mets annoncés. Puis, versant sur le tout du jus bien chaud avec la précieuse cuillère, il plaça l'assiette assortie devant sa jeune invitée. « Tous mes volets sont mis, ma charmante, » dit le capitaine d'un ton d'encouragement, « et nous voilà à notre aise. Allons, essayez de manger un peu, ma mignonne. Si Walter était ici... « Ah, si je l'avais pour frère, maintenant !» s'écria Florence. « Allons, ne vous désolez pas, ma mignonne, » dit le capitaine. « Tenez bon, pour me faire plaisir. » C'était naturellement votre ami, n'est-ce pas, votre ami du cœur. Florence ne trouvait pas de parole pour lui répondre. Elle ne put que s'écrier « Oh, cher, cher Paul, oh, Walter !» Le parquet même, murmura le capitaine, contemplant la tête penchée de Florence, « oui, le parquet même sur lequel elle avait posé le pied était aussi précieux pour Walter que le ruisseau pour le cerf qui jamais ne s'en désaltère. Je le vois encore le jour où son nom fut inscrit sur les registres de la maison tombée. Je le vois encore parler d'elle en rougissant de modestie. C'était comme un bouton de rose fraîchement éclos à table. Eh bien, ma charmante, si notre pauvre Walter était ici, ou qu'il pût y être, mais il est noyé, n'est-ce pas ? » Florence fit un signe de tête. « Oui, oui, noyé, » dit le capitaine avec douceur. « Mais comme je vous le disais, s'il pouvait être ici, il vous prierait, vous supplierait, ma toute belle, de manger un peu et de songer à votre chère petite santé. Ainsi donc, courage, ma charmante. Ne vous laissez pas aller à la dérive par amour pour Walter et tournez votre gentille petite tête au vent. » Florence s'efforça de manger une bouchée pour faire plaisir au capitaine. Celui-ci, cependant, qui semblait avoir oublié son dîner, posa sur la table son couteau et sa fourchette et approcha sa chaise du sofa. « Walter était un fameux gaillard, n'est-ce pas, ma toute belle ?» dit le capitaine, après s'être frotté pendant quelque temps le menton en silence, les yeux fixés sur elle. « C'était un bon et brave garçon !» Florence ne put répondre que par ses larmes. « Et il est noyé, ma reine, n'est-ce pas ?» dit le capitaine d'une voix douce. Florence dit encore « oui » de la tête. « Il était plus âgé que vous, ma charmante, » poursuivit le capitaine, « mais, c'est égal, vous étiez comme deux enfants ensemble, n'est-ce pas ?» Florence répondit encore « oui ». « Et Walter est noyé, » dit le capitaine, « n'est-ce pas ?» Cette question répétée sans cesse était un singulier moyen de consolation. Mais il faut croire que c'en était un pour le capitaine Cuttle, car il y revenait sans cesse. Florence, ne pouvant pas manger, repoussa son assiette et se coucha sur le sofa. Elle lui tendit la main, car elle voyait bien qu'elle lui faisait de la peine, et elle eut au contraire sincèrement souhaité de lui être agréable, après tous les tourments qu'elle lui avait causés. Mais il garda dans sa main cette petite main qui le serrait, et semblant avoir oublié lui-même son dîner et son appétit, il continua à murmurer de temps en temps, avec un grognement sympathique, « Pauvre Walter ! Hélas, hélas, il est noyé, n'est-ce pas ?» Et il attendait toujours sa réponse, à laquelle il semblait attacher la plus grande importance. La volaille et les saucisses étaient froides, le jus et la sauce aux œufs étaient figés, quand le capitaine se rappela ce mets délicieux et tomba dessus, aidé de Diogène. À eux deux, ils eurent bientôt fini. Quelles furent la joie et la surprise du capitaine Cuttle en voyant Florence faire la petite ménagère, l'aider à desservir la table, à balayer la salle à manger, à nettoyer la cheminée. Mais avec quelle vivacité, lui aussi, il refusa d'abord son aide. À la fin, cependant, il était tellement saisi d'admiration qu'il lui fut impossible de rien faire et qu'il resta à la regarder comme si elle eût été une fée remplissant pour lui l'office de ménagère. La raie rouge de son front en brillait de bonheur. Mais quand Florence, décrochant la pipe de la cheminée, la lui mit dans la main, en le priant de la fumer, le capitaine fut si troublé par cette attention délicate qu'il tint cette pipe honorée comme s'il n'en avait jamais tenu de sa vie. Puis, lorsque Florence, regardant dans le buffet, en tira un petit flacon et lui eut préparé un croque délicieux sans qu'il l'eût demandé, en voyant le verre à côté de lui, son nez rugueux pâlit de l'honneur qui lui était fait. Quand il eut bourré sa pipe, en proie à une satisfaction rêveuse, Florence la lui alluma avant que le capitaine eût eu le temps de s'y opposer ou de la prévenir. La jeune fille reprit alors sa place sur le sofa et le regarda avec un sourire de tendresse et de reconnaissance. Un sourire qui lui montrait si bien que son cœur abandonné se tournait vers lui dans sa douleur aussi bien que son visage, que la fumée de la pipe lui entra dans la gorge en le faisant tousser et pénétra dans ses yeux qu'elle aveugla en le faisant pleurer. Il était vraiment curieux de le voir chercher à faire croire que la cause de sa toux et de ses larmes était cachée dans le fond de sa pipe. Il regarda dans le fourneau et, n'y trouvant rien, il se mit à souffler dans le tuyau. Quand la pipe se remit à marcher, il tomba dans l'état de béatitude particulier aux bons fumeurs, mais il resta les yeux fixés sur Florence avec un calme heureux impossible à décrire. De temps en temps, il s'arrêtait pour laisser échapper un nuage de fumée de ses lèvres par petites bouffées. On eût dit une devise enroulée sortant de sa bouche et portant écrit ces mots en légende « Le pauvre Walter, hélas, hélas, il est noyé, n'est-ce pas ?» Après quoi, il se remettait à fumer avec un bonheur infini. Les deux pendants ne se ressemblaient guère. Pouvait-il y avoir un contraste plus frappant que la beauté et la jeunesse de Florence à côté de la figure rugueuse du capitaine Cuttle, à la grosse voix, à la large carrure et aux robustes épaules qui avaient résisté à plus d'une tempête. Et cependant, malgré ces différences extérieures, ils se ressemblaient par leur naïve ignorance du monde, de ses troubles et de ses dangers. Pas un enfant ne pouvait égaler le capitaine Cuttle dans son inexpérience de toute autre chose que le vent et le temps, ni en naïveté, en confiance, en fidélité généreuse. La foi, l'espérance et la charité se partageaient son être tout entier. Avec elle, pourtant, se glissait dans son cœur quelque chose de romanesque. L'imagination n'en faisait pas les frais. C'était un sentiment romanesque étranger aux habitudes du monde réel, à toute considération de prudence ou d'application pratique, le romanesque enfin des cœurs simples et bons. Ainsi, pendant que le capitaine fumait et regardait Florence, Dieu sait quels rêves impossibles dont elle était le principal objet se présentaient à son esprit. Bien que les pensées de la vie qui souffrait devant elle fussent vagues et incertaines aussi, mais bien moins ambitieuses, ses larmes décomposaient le rayon de lumière qu'elle regardait et déjà, à travers son chagrin, elle voyait à l'horizon lointain briller l'arc-en-ciel. La princesse errante du conte de la Belle et la Bête et son aimable monstre assis au coin du feu et faisant ensemble la conversation comme le capitaine Cuttle et la pauvre Florence n'auraient pas été trop mal représentés par ce touchant tête-à-tête. Le capitaine n'était nullement troublé de l'idée qu'il pût y avoir la moindre difficulté pour lui à garder Florence. La responsabilité ne l'inquiétait pas. Une fois les volets posés et la porte fermée, il était dans une sécurité parfaite. Eût-il été son tuteur devant la loi, il n'aurait pas été plus tranquille. C'était bien l'homme du monde le moins capable de se mettre martel en tête pour des considérations de ce genre. Il fuma donc sa pipe tout tranquillement, et Florence et lui se mirent à rêver chacun de leur côté. Quand la pipe fut à bout, on prit le thé, puis Florence pria le capitaine de l'accompagner dans quelques boutiques du voisinage, où elle put acheter certains objets de toilette indispensables. Comme il faisait presque nuit, le capitaine y consentit. Mais il commença d'abord par regarder soigneusement dans la rue, comme il avait l'habitude de le faire, du temps où il se cachait de Madame Maxtinger. Il s'arma ensuite de son gros bâton pour être sur la défensive, dans le cas où quelque circonstance imprévue le forcerait à prendre les armes. Il fallait le voir se redresser en donnant le bras à Florence pour la conduire à 200 ou 300 pas de là. Il avait toujours l'œil au guet, et les 1000 précautions dont il entourait sa compagne ne servaient qu'à attirer les regards de tous les passants. Arrivé à la boutique, il pensa qu'il était de sa délicatesse de se retirer pendant que Florence ferait ses emplettes. Mais auparavant, il déposa sur le comptoir sa petite boîte de fer blanc en prévenant la caissière qu'elle contenait 350 francs 15 centimes. Dans le cas, ajouta-t-il, où cette somme serait insuffisante pour les emplettes de ma jeune nièce, à ce mot nièce il lança à Florence un regard significatif, accompagné de gestes pleins de malice et de mystère, je vous prierai de me faire seulement pst, pst, et je payerai la différence de ma poche. Sur quoi elle tira de sa poche comme par hasard sa grosse montre, qui ne pouvait manquer de donner à la maison la plus haute idée de sa position de fortune, et, envoyant avec son croc un baiser à sa nièce, il sortit de la boutique et resta à la porte, où il était bon à voir avec sa grosse figure, regardant de temps en temps au milieu des soieries et des rubans, d'un air d'inquiétude, si Florence n'aurait pas été enlevée par une porte de derrière. « Mon cher capitaine Cuttle, dit-elle en sortant avec un paquet dont la dimension exiguë désappointa vivement le capitaine, car il avait espéré la voir sortir, suivi d'un commissionnaire chargé de ballots, je n'ai nullement besoin de cet argent. Je n'en ai rien dépensé, j'en ai à moi. » « Ma charmante, répondit le capitaine, tout décontenancé, et regardant droit devant lui, « voulez-vous bien le garder pour moi jusqu'à ce que je vous le demande? Cela me fera plaisir. » « Puis-je le remettre à sa place et l'y laisser ?» demanda Florence. Le capitaine, peu satisfait de cette proposition, répondit cependant, « Oui, oui, ma charmante, mettez-le où il vous plaira, pourvu que vous sachiez où le retrouver. Je n'en ai pas besoin, moi, et je m'étonne de ne pas l'avoir encore jeté au tas d'ordures. » Le pauvre capitaine était pour le moment fort découragé, mais aussitôt qu'il sentit le bras de Florence, il sembla renaître, et ils revinrent tous deux à la maison, en prenant toujours les mêmes précautions. Il ouvrit la porte de l'asile du petit aspirante marine et s'insinua dans la boutique avec une prestesse qu'une longue expérience seule avait pu lui donner. Le matin, pendant le sommeil de Florence, il avait arrêté la fille d'une dame âgée, marchande de volailles, qui stationnait ordinairement au marché de Leadenhall sous un parapluie bleu. Cette jeune fille devait venir faire la chambre de Florence et se mettre à sa disposition pour tous les petits services dont elle pourrait avoir besoin. Dès la première visite de cette demoiselle d'honneur, Florence trouva tout aussi bien rangé, aussi en ordre, sinon aussi élégant que dans ce palais de ses tristes souvenirs, ou plutôt de ses songes terribles qu'elle avait autrefois appelé son logis. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, le capitaine insista encore auprès d'elle pour lui faire accepter une rôtie avec un verre de vin chaud. Il faisait le vin chaud dans la perfection. Puis, l'encourageant par de bonnes paroles et par les citations les plus incohérentes qu'il put imaginer, il la conduisit en haut dans sa chambre à coucher. Mais lui aussi avait quelque chose sur le cœur. On voyait bien dans ses manières qu'il n'était pas à son aise. « Bonne nuit, mon petit ange, lui dit-il, quand il fut à la porte de la chambre. » Florence leva la tête pour l'embrasser. En toute autre circonstance, le capitaine aurait été terrassé de surprise par un semblable témoignage d'affection et de reconnaissance. Mais en ce moment, tout sensible qu'il était à l'attention de Florence, il la regarda d'un air encore plus embarrassé qu'il ne l'avait fait jusqu'à présent, et parut la quitter à regret. « Pauvre Walter !» dit le capitaine. « Pauvre Walter, pauvre garçon !» soupira Florence. « Noyé, n'est-ce pas ?» fit le capitaine. Florence secoua la tête et soupira. « Bonne nuit, ma charmante, » dit le capitaine Cuttle en lui tendant la main. « Dieu soit avec vous, mon bon et bien cher ami. » Mais le capitaine ne s'en allait toujours pas. « Y a-t-il quelque chose de nouveau, cher capitaine Cuttle ?» dit Florence, facile à s'alarmer dans l'état d'esprit où elle se trouvait. « Avez-vous quelque chose à me dire ?»« À vous dire, ma charmante, » répliqua le capitaine, qui rougit en la regardant. « Non, non, que voulez-vous que j'aie de nouveau à vous dire, ma chérie ?» « Vous n'espérez pas que je vous dise quelque chose de bon, certainement. »« Oh non !» dit Florence, secouant la tête. Le capitaine la regarda fixement et répéta « non ». Mais il ne s'en allait toujours pas, et il montrait toujours le même embarras. « Pauvre Walter !» dit le capitaine. « Mon Walter, comme je vous appelais toujours. »« Oh, neveu du vieux Sol Gills ! Aussi agréable à voir pour tous ceux qui vous connaissaient que les jolies fleurs du mois de mai !» « Qu'êtes-vous devenu, mon brave garçon? Noyé, n'est-ce pas ?» Lorsque le capitaine eut terminé sa prosopopée par ces mots « Noyé, n'est-ce pas ?», il lui souhaita le bonsoir et descendit pendant que Florence l'éclairait du haut de l'escalier. Il avait déjà disparu dans l'obscurité, le bruit de ses pas qui s'éloignait semblait indiquer qu'il entrait dans la salle à manger, lorsque tout à coup, sa tête et ses épaules reparurent dans l'escalier. Il n'avait d'autre motif que de répéter sans doute encore une fois « Noyé, n'est-ce pas, ma mignonne ?» car lorsqu'il eut prononcé ces mots d'un ton de voix plaintif, il disparut pour tout de bon. Florence était attristée de voir qu'en venant chercher un asile dans cette maison, elle avait, sans le savoir, mais bien naturellement, réveillait le souvenir cuisant de Walter dans le cœur de son protecteur. S'asseyant devant la petite table où le capitaine avait placé le télescope, le chansonnier et toutes les autres curiosités, elle se mit à penser à Walter, à tout ce qui pouvait lui rappeler sa mémoire, triste souvenir qui lui faisait souhaiter aussi d'être à son tour étendu sur son lit de douleur pour y mourir. Mais en abandonnant ses pensées lugubres au regret des morts qu'elle avait aimés, jamais elle ne songea à ce logis paternel qu'elle avait quitté, bien moins encore à la possibilité d'y retourner un jour. Cette maison n'existait plus pour elle. Elle n'abritait plus pour elle un père. Un père, comment en aurait-elle pu conserver encore la pensée? N'était-ce pas là qu'elle avait vu consommer le meurtre? N'était-ce pas là que dans les derniers efforts de sa tendresse méconnue pour lui porter des consolations, il s'était lui-même, d'une main dénaturée, arraché du cœur de sa fille, qu'il s'était frappé d'un coup mortel? À cette pensée effrayante, elle se couvrit les yeux et recula d'horreur devant le souvenir de cette action barbare et de la main cruelle qu'il avait accomplie. Si son cœur passionné avait pu conserver l'image du coupable, après une pareille scène, il se serait brisé de douleur. Mais heureusement, il l'avait oublié. Le vide complet s'était fait dans son âme. Un effroi salutaire lui faisait redouter et fuir les moindres circonstances qui pouvaient raviver sa peine. Effroi pieux et saint qui prenait sa source dans les profondeurs d'un ardent amour si cruellement éprouvé. Elle n'osait pas se regarder dans la glace. La marque noire qu'elle portait au sein lui faisait peur. Il lui semblait qu'elle portait là une marque maudite. Elle la recouvrit bien vite, d'une main tremblante, au milieu de l'obscurité, et pencha la tête pour pleurer. Le capitaine ne se coucha pas de bonne heure. Il se promena à droite et à gauche dans la boutique et dans la petite salle à manger pendant une heure entière. Puis, comme s'il eût calmé ses esprits par cet exercice, il s'assit d'un air grave et pensif dans son livre de prières, les prières que l'on dit à bord. Cela n'allait pas tout seul, car le bon capitaine n'était pas un lecteur bien prompt et bien habile, et souvent, avec sa grosse voix, il s'arrêtait tout court devant un mot difficile et perdait du temps à s'adresser à lui-même des encouragements. « Allons, mon garçon, courage » disait-il, ou bien « Droit, Edward Cuttle, droit !» Moyen infaillible pour le tirer d'embarras. De plus, ses lunettes gênaient autant sa vue qu'elle l'aidait peut-être. Malgré tous ses inconvénients, le capitaine lut résolument le service jusqu'à la dernière ligne avec une foi sincère. Quand il eut fini, il trouva qu'il y avait réellement du bon là-dedans et se retira sous le comptoir, le cœur léger et content, mais non sans avoir, au préalable, remonté l'escalier pour écouter à la porte de Florence. Il se leva plusieurs fois pendant la nuit pour s'assurer que sa pupille reposait tranquillement. Une fois, au point du jour, il s'aperçut qu'elle était éveillée, car, en entendant des pas près de sa porte, elle demanda si c'était lui qui était là. « Oui, ma charmante, » répondit le capitaine, dont la grosse voix fit tout ce qu'elle put pour parler bas. « Allez-vous tout à fait bien, mon bijou ?»« Oui, » lui dit Florence en le remerciant. Le capitaine ne pouvait laisser échapper une occasion aussi favorable. Il appliqua sa bouche au trou de la serrure et se mit à souffler par là, comme un vent furieux. « Pauvre Walter, il est noyé, n'est-ce pas ?» Sur quoi il se retira, et rentrant dans sa chambre, il dormit jusqu'à 7 heures. Il conserva ce jour-là le même air de gêne et d'embarras. Florence, cependant, occupée à des travaux d'aiguille dans la petite salle à manger, était plus calme et plus tranquille que la veille. Chaque fois qu'elle levait les yeux de dessus son ouvrage, elle remarquait que le capitaine la regardait attentivement en se frottant le menton d'un air pensif. Il lui arriva même, bien des fois, d'amarrer son fauteuil tout près d'elle, comme s'il allait lui dire quelque chose de tout à fait confidentiel, et puis de chasser bien loin sur son ancre, comme s'il ne savait par où commencer. De sorte que pendant toute la journée, il ne fit que croiser dans les parages de la petite salle à manger, sur ce frêle esquif prêt à chavirer contre les lambris ou contre la porte du cabinet, comme un navire en détresse. Enfin, au coucher du soleil, le capitaine jeta l'ancre solidement à côté de Florence et se mit à causer d'une manière suivie. Mais quand la flamme du foyer se refléta sur les murs et sur le plafond de la petite salle à manger, sur le plateau à thé, les tasses et les soucoupes rangées sur la table, quand elle se refléta sur le doux visage, tourné vers le feu qui brillait au milieu des larmes dont s'emplissaient ses yeux, Le capitaine rompit ainsi le silence. « Vous n'avez jamais voyagé sur mer, ma mignonne ?»«
Non, » répondit Florence.
« Ah, » dit le capitaine d'un ton respectueux, « c'est un élément bien imposant. Il se passe des prodiges sur la mer, ma charmante. Songez un peu au vent qui y gronde, aux vagues qui mugissent. Songez un peu à ces nuits orageuses, si sombres, » dit le capitaine en levant son croc d'un geste solennel, « que l'on ne peut voir sa main droite devant soi, sinon à la lueur des éclairs. Songez un peu aux tempêtes qui vous emportent à travers les trombes et les ténèbres, comme si vous étiez entraîné tête baissée jusqu'au bout du monde, sans repos, ainsi soit-il. Retenez ça. Quand vous aurez trouvé celle-là, prenez-en note. C'est dans ces moments-là, ma belle, qu'un homme peut dire à son camarade, après avoir feuilleté la Bible auparavant, « Un rude nord-ouest, Guillot, écoutez, ne l'entendez-vous pas gronder ? Dieu leur soit en aide, que je plains tous les malheureux qui sont à la côte. » Cette citation, applicable surtout aux terreurs éprouvées sur l'océan, le capitaine la prononça du ton le plus expressif et termina par un sonore « Allons, tenez bon, solide poste !»« Est-ce que vous vous êtes jamais trouvé au milieu d'une de ces terribles tempêtes ?» demanda Florence. « Oh, certes, ma charmante, j'ai eu ma part des gros temps, » dit le capitaine, en essuyant son front avec agitation, « et je sais un peu ce que c'est que d'être ballotté par les flots. Mais ce n'est pas de moi que je veux parler. » Notre cher Walter, mignonne, vous savez, il se rapprocha d'elle, celui qui s'est noyé. La voix du capitaine était si tremblante, son visage si pâle, ses traits si bouleversés, que Florence, tout effrayée, lui saisit la main. « Votre figure n'est plus la même, » s'écria Florence. « Vous avez pâli tout à coup. Qu'y a-t-il, cher capitaine Cattle ? Mon sang se glace en vous voyant dans cet état. » « Quoi donc, ma charmante ? » reprit le capitaine en la soutenant de son bras. « Allons, ne chavirez pas. Non, non, tout va bien, tout va très bien, ma chérie. » « Comme j'étais en train de vous le dire, Walter, eh bien, il est noyé, n'est-ce pas ?» Florence le regarda attentivement. Elle changea de couleur. Elle posa la main sur son cœur. « Il y a des risques et des périls sur la mer, ma belle enfant, » dit le capitaine. Les vagues se sont bien souvent refermées sur plus d'un brave navire, sur plus d'un brave cœur, sans avoir jamais dit leur dernier mot. Mais on en réchappe pourtant aussi de la mer. Et quelquefois, on a pu voir un homme, mais un sursang, ma mignonne, se sauver par la miséricorde de Dieu et revenir dans sa famille après avoir été compté parmi les morts, rapporter la nouvelle que tout le monde avait péri. Je sais une histoire, délice du cœur, balbutia le capitaine, une histoire de ce genre qu'on m'a racontée une fois. Mais puisque nous en sommes sur ce sujet, et que nous voilà assis là ensemble auprès du feu, peut-être vous plairait-il de me l'entendre raconter. Voulez-vous, mignonne ? Florence, dans une agitation qu'elle ne pouvait ni maîtriser ni comprendre, suivit machinalement le regard du capitaine, qui se dirigeait derrière elle dans la boutique où brûlait une lampe. Au moment où elle tourna la tête, le capitaine se leva vivement et mit sa main devant les yeux de la jeune fille. « Il n'y a rien par là, ma belle, » dit le capitaine. « On ne regarde pas de ce côté. »« Pourquoi pas ?» demanda Florence. Le capitaine prétendit que ce côté-là était trop triste et que c'était plus gai de regarder le feu. Puis il poussa la porte, qui était restée ouverte jusque-là, et reprit sa place. Florence le suivait des yeux et le regardait fixement. « Dans mon histoire, il s'agissait d'un vaisseau, ma charmante, » commença le capitaine, « qui fit voile du port de Londres par un bon vent et un beau temps. Il était frété pour... Allons, ne vous laissez donc pas aller à la dérive. Il était frété pour l'étranger, là, mignonne. » L'expression du visage de Florence alarma le capitaine, qui lui-même avait le teint rouge et animé et trahissait une agitation qui valait bien celle de Florence. « Continuerai-je, ma belle ?» dit le capitaine. « Oh oui, je vous en prie !» s'écria Florence. Le capitaine fit effort comme pour expectorer quelque chose qui embarrassait son gosier et continua d'un ton saccadé. Il arriva que ce malheureux navire fut pris en mer d'un si gros temps qu'on n'en a jamais vu de pareil en 20 ans, ma chère. C'était des ouragans sur les côtes capables de déraciner des forêts et de renverser des villes. Et c'était des tempêtes sur la mer, dans ces latitudes, que le vaisseau le mieux équipé n'aurait pu supporter. Pendant plusieurs jours, le malheureux navire lutta avec courage, m'a-t-on dit. Il fit son devoir en brave, ma mignonne. Mais d'un seul coup de vent, les parois furent enfoncées, les mâts et le gouvernail emportés, les meilleurs matelots balayés par les flots, et le navire livré à la merci des vents qui soufflaient de plus en plus fort, tandis que les vagues passaient par-dessus, l'enfonçaient dans les eaux, et, arrivant tout moment sur lui en mugissant, le broyèrent comme une coquille. Chaque petite tache noire que l'on voyait sur ces montagnes d'eau en fureur était un débris du navire ou le corps d'un naufragé. Pauvre navire ! Il fut mis en pièces, ma belle, et le gazon ne recouvrira jamais les tombes de ses passagers. Tous ne furent pas perdus, s'écria Florence. Il y en eut sauvés. Il y en eut un, au moins. À bord de ce malheureux vaisseau, dit le capitaine, en se levant de son siège et en agitant son bras avec exaltation, était un garçon, un brave garçon, à ce que l'on m'a dit. Il avait aimé, quand il était enfant, à lire des actes de dévouement dans les naufrages, et il en parlait sans cesse. Je l'ai entendu, je l'ai entendu. Et il s'en souvint à l'heure du danger. Car pendant que les cœurs les plus fermes et les mieux trempés étaient abattus, lui, il restait solide et gai. Ce n'était pas sa faute d'avoir en terre ferme des objets de tendre affection dont le souvenir aurait pu faire défaillir ses forces. Mais non, il était brave de nature comme un lion. Je le connaissais. J'avais bien vu cela sur son visage quand il n'était qu'un enfant. Oui, bien des fois, et quand je ne pensais qu'à sa bonne mine. Dieu le garde. Et fut-il sauvé ? S'écria Florence. Fut-il sauvé ? Ce brave garçon, fit le capitaine, regardez-moi, mignonne. Ne regardez pas autour de vous. Florence eut à peine la force de redire « Pourquoi pas ?»« Parce qu'il n'y a rien là, ma chère, » dit le capitaine. « Ne vous laissez pas aller à la dérive, charmant enfant. Non, pour l'amour de Walter qui nous était cher à tous. » Ce brave garçon, dit le capitaine, après avoir travaillé avec les plus courageux, avoir réconforté les faibles, sans se plaindre, sans avoir peur, ranimant le courage de tous côtés, au point qu'on le regardait comme un amiral, ce garçon, ce brave garçon, le second et un matelot avec lui, furent les seules créatures vivantes qui échappèrent au naufrage, liées à un débris du navire et ballottées par la mer furieuse. Oui, seuls parmi tant d'hommes qui montaient le vaisseau. « Furent-ils sauvés ? » s'écria Florence. Pendant bien des jours et bien des nuits, ils allèrent ainsi sur la mer sans fin, dit le capitaine, jusqu'à ce que... Non, ne regardez pas de ce côté, mignonne. Jusqu'à ce qu'enfin un navire avança sur eux et les prit à bord, par la grâce de Dieu, deux vivants encore, l'autre mort. « Qui était mort ?» s'écria Florence. « Ce n'était pas le brave garçon dont je parle, dit le capitaine. « Oh, merci, merci !»« Ainsi soit-il, répondit vivement le capitaine. « Ne vous laissez pas aller à la dérive. Encore un instant, ma charmante. Allons, du courage !» À bord de ce navire, ils traversèrent toute la carte, ma chère, car il n'y avait pas moyen d'aborder nulle part, et dans ce voyage, le matelot qu'on avait sauvé avec lui mourut. Mais lui fut épargné, et le capitaine, sans savoir ce qu'il faisait, avait coupé une tartine de pain et l'avait mise à son croc, qui lui servait habituellement de rôtissoir. Il la tenait en ce moment devant le feu, et regardant derrière lui Florence avec une vive émotion, il laissa le pain brûler et prendre feu comme une allumette. « Il fut épargné, » répéta Florence, « et il est revenu dans sa terre natale. Porté sur ce débris de navire, » dit le capitaine, regardant toujours dans la même direction, « et ne craignez rien, ma petite. » Et il aborda. Un matin, il s'approcha tout doucement de la porte de sa demeure pour regarder dans l'intérieur, sachant que ses amis croyaient qu'il était noyé, quand il se sauva en entendant « En entendant l'aboiement inattendu d'un chien !» s'écria vivement Florence. « Oui, vociféra le capitaine. Droit, ma chérie, courage ! Ne regardez pas encore derrière vous. Regardez-la sur la muraille. » Sur la muraille, tout près d'elle, était l'ombre d'un homme. Elle tressaille, regarde, jette un cri perçant. Walter Gay était derrière elle. Aussitôt, sans autre pensée que celle d'une sœur qui retrouve son frère, un frère sauvé de la tombe, un frère qui vient d'échapper au naufrage et qu'elle revoit à ses côtés, elle s'élança dans ses bras. Dans tout le monde entier, Walter semblait être pour elle son unique espoir, sa consolation, son refuge,
son protecteur naturel. Prenez soin de Walter, car j'aimais Walter. Le tendre souvenir de la voix mourante qui avait prononcé ces paroles traversa son âme comme un son mélodieux qui se fait entendre pendant la nuit. « Oh, soyez le bienvenu dans la maison, cher Walter. Soyez le bienvenu pour ce cœur brisé. » Voilà ce que pensait Florence, sans pouvoir desserrer les lèvres et en le tenant innocemment enlacé dans ses bras. Le capitaine Cattell, dans un accès d'émotion, essaya de s'essuyer la tête avec la rôtie toute noire qu'il avait au bout de son croc. Mais la trouvant trop dure pour cet usage, il la mit dans son chapeau de toile cirée, dont il se coiffa avec quelque difficulté, entonna un vers de la chanson de l'aimable Susan, s'arrêta court au premier mot, se retira dans la boutique, le teint rouge, la figure encore humide, son col de chemise tout chiffonné, et revint bientôt tout exprès pour dire « Walter, mon garçon, voici quelques objets dont je désire vous faire présent conjointement. » Le capitaine tira promptement sa grosse montre, les cuillères à thé, les pinces à sucre et la boîte de fer blanc. Puis, de sa large main, il balaya le tout dans le chapeau de Walter. Mais au moment où il présenta à son ami ce singulier coffre-fort, il se sentit si attendri qu'il se vit forcé de se retirer encore une fois dans la boutique où il prolongea son absence plus longtemps qu'il ne l'avait fait tout à l'heure. Walter revint le chercher pour le ramener. Alors le capitaine eut un autre souci. Il se mit à craindre que ce retour soudain ne fût un nouveau coup pour Florence. Sous l'empire de cette inquiétude, il voulut couper court aux sentiments et, faisant un appel à la raison, il interdit formellement de faire la moindre allusion aux aventures de Walter pendant quelques jours. Et, pour donner l'exemple, il commença par devenir assez maître de lui pour se souvenir de la tartine qu'il avait dans son chapeau et pour prendre un bol de thé. Mais, sentant d'un côté la main de Walter lui serrer l'épaule et de l'autre voyant Florence verser des larmes d'attendrissement, le philosophe improvisé, n'y pouvant plus tenir, s'élança subitement dans la boutique et ne revint qu'au bout de 10 bonnes minutes. Jamais de sa vie sa figure n'avait été si brillante ni si radieuse que, lorsqu'enfin, assis irrévocablement devant sa tasse de thé, il promena ses regards de Florence à Walter et de Walter à Florence. Il ne faut pas croire que cet éclat de son visage fut l'effet du frottement de sa manche qu'il avait passé tant de fois sur sa figure pendant la dernière demi-heure. C'était purement l'effet de ses émotions intérieures. C'était la gloire et le plaisir qui se répandaient sur tous ses traits et faisaient de sa figure une illumination bienheureuse. Avec quel orgueil il regardait le visage hâlé et les yeux étincelants de son courageux ami. Avec quel orgueil il retrouvait sur ses traits la généreuse ardeur de sa première jeunesse. C'était toujours ce même air franc, dégagé, ces mêmes manières douces et affectueuses, ce même regard vif et animé. C'était tout cela qui transformait le visage radieux du capitaine. Puis, s'il tournait les yeux vers Florence, quelle admiration, quelle sympathie pour la jeune fille, dont la beauté, la grâce et l'innocence ne pouvaient trouver de défenseur plus sincère et plus dévoué. Son apothéose était complète en les voyant tous deux réunis, et c'était l'idée de cet heureux rapprochement qui faisait briller et danser autour de sa tête comme une auréole de bonheur. Comme on parla du pauvre oncle Sol, comme on répéta tous les petits détails de sa disparition, et combien l'absence du vieillard et les malheurs de Florence jetèrent un voile de tristesse sur leur félicité. Diogène, que le prudent capitaine avait enfermé en haut de peur qu'il n'aboyât encore, fut délivré de sa prison, pendant qu'en proie à un trouble et à une agitation continuelle, le capitaine Cattell continuait de faire de temps en temps un nouveau plongeon dans la boutique pour donner libre cours à son émotion. Si on lui avait dit que Walter, en ce moment près de Florence, se sentait, pour ainsi dire, plus loin d'elle que sur l'océan, que le jeune homme, qui trouvait tant de plaisir à chercher et contempler cette gracieuse figure, détournait cependant ses regards de ceux de la jeune fille quand il rencontrait ses yeux où brillait l'affection d'une sœur, il n'y aurait pas cru. Autant eût-il valu lui dire que ce n'était pas Walter qui était là, assis à ses côtés, que c'était seulement son revenant. Il les voyait là ensemble, dans tout l'éclat de leur jeunesse et de leur beauté. Il se rappelait l'histoire de leur enfance, et son grand habit bleu, quelque vaste qu'il pût être,
n'avait de place que pour l'admiration que lui causait un tel couple et le bonheur qu'il éprouvait de les voir réunis. Ils restèrent ainsi à causer bien avant dans la nuit. Ils auraient pu y rester une semaine tout entière sans lasser l'heureux capitaine. Mais Walter finit par se lever pour leur dire adieu et leur souhaiter bonne nuit. « Walter s'en va, » dit Florence. « Et où va-t-il » « Il a suspendu son hamac pour le moment, » dit le capitaine Cuttle, « chez Brockley, à une longueur de porte-voix, délice du cœur. »« C'est à cause de moi que vous partez, Walter, » dit Florence. « Vous cédez votre place à une sœur sans asile. »« Cher Miss Tombay, » dit Walter d'une voix tremblante, « s'il n'est pas trop hardi de ma part d'oser vous appeler ainsi. »« Walter !» s'écria-t-elle, toute surprise. « Si quelque chose au monde pouvait augmenter le bonheur que j'ai de vous voir et de vous parler, ce serait de croire que j'ai pu vous rendre le plus petit service. Où n'irais-je pas? Que ne ferais-je pas pour vous ?» Elle sourit et l'appela son frère. « Vous êtes si changé, » dit Walter. « Moi, changé ? » interrompit-elle. « Si changé à mes yeux, » dit Walter avec douceur et comme se parlant à lui-même. « Je vous ai laissé enfant et je vous retrouve... » Oh, si différente! Mais toujours votre sœur, Walter. Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas, ce que nous nous sommes promis en nous quittant? Oublié, moi? Il n'en put dire davantage. Si les souffrances et les dangers vous l'avaient fait oublier, ce qui n'est pas, vous vous le rappelleriez maintenant, Walter. Maintenant que vous me voyez pauvre et abandonné, sans autre demeure que celle-ci, sans autre ami que vous deux. Oui, dit Walter, oui, Dieu m'en est témoin. « Oh, Walter !» s'écria Florence à travers ses larmes et ses sanglots, « cher frère, guidez-moi dans le monde. Indiquez-moi l'humble route que je pourrais suivre seul et délaissé. Dites-moi ce que je dois faire, que je puisse trouver en vous un protecteur, un soutien, tout ce qu'une sœur peut trouver dans son frère. Oh, venez à mon aide, Walter, j'en ai tant besoin. Miss Tombay, Florence, je mourrai avec joie pour vous protéger. » Mais vos parents sont riches et puissants. Votre père... Non, non, Walter, ne prononcez pas ce mot. » Elle recula et étendit ses mains devant elle avec une terreur qui cloua Walter à sa place. Jamais, depuis ce jour, il n'oublia le son de sa voix, l'expression de son regard, quand elle lui avait fermé la bouche à ce nom. Il aurait vécu 100 ans qu'il n'aurait pu l'oublier. Où aller? N'importe où, pourvu que ce ne fût pas chez elle. Jamais. Tout était fini, elle avait tout perdu et son cœur était brisé. Son cri et son regard lui avaient appris toute l'histoire de son abandon et de ses souffrances. Il sentit qu'il ne l'oublierait jamais et jamais il ne l'oublia. Elle appuya sa jolie figure sur l'épaule du capitaine et se mit à raconter comment et pourquoi elle s'était enfuie. En entendant ce récit, entrecoupé par ses sanglots, Walter pensa avec terreur que, pour ce père qu'elle ne nommait pas, dont elle ne se plaignait pas dans ses larmes, chacune de ses larmes discrètes était la plus cruelle des malédictions, en le privant à tout jamais d'un amour si fécond et si puissant. « Allons, allons, tenez bon, mon bijou, mon trésor, » dit le capitaine quand elle eut cessé de parler. Il avait prêté à son récit la plus grande attention et l'avait écouté, le chapeau tout de travers sur la tête, et la bouche toute grande ouverte. Walter, cher enfant, prenez le large pour cette nuit et laissez sous ma garde la charmante petite. Walter prit dans ses deux mains la main de Florence, la porta à ses lèvres et y déposa un baiser. Il savait maintenant qu'elle était une pauvre fugitive sans asile. Mais plus précieuse ainsi à ses yeux qu'au fait de la richesse et de la puissance, elle lui semblait plus loin de lui que jamais elle ne lui était apparue dans ses rêves d'enfant. Le capitaine Cuttle, qui n'était pas troublé par les mêmes pensées, accompagna Florence à sa chambre et vint écouter de temps en temps à sa porte, sur le seuil enchanté, oui, vraiment enchanté pour lui, jusqu'au moment où il fut assez rassuré sur l'état de Florence pour descendre à sa niche sous le comptoir. Et tout en ôtant sa montre pour commencer sa toilette de nuit, il ne put s'empêcher d'aller crier encore une fois, avec entraînement par le trou de la serrure, « Il est noyé, n'est-ce pas ?» Et, en descendant l'escalier, il cherchait encore le fameux verre de la belle Susan. Mais les mots lui restèrent dans la gorge, et il n'en put tirer aucun son. Il alla donc se coucher, et rêva que le vieux Solomon Gills avait épousé Madame Maxtinger, qui le gardait au secret dans une chambre où elle l'avait mis à la portion congrue.